Lyon Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le monde arabe connaît-il un retour des dictateurs? C'est la question que se pose la revue Moyen-Orient dans son dernier numéro. La revue fait le bilan géostratégique d'une année mouvementée et semble bien pessimiste pour les populations civiles qui sont de plus en plus mises en danger, y compris par les États eux-mêmes, censés pourtant les protéger. Des sociétés qui connaissent le meilleur comme le pire, c'est ce que nous montrent les observateurs de France 24. Avec eux, nous visiterons un hôpital fantôme en Algérie, nous verrons que les réseaux sociaux servent aussi parfois à chasser la liberté au Koweït et qu'en Iran, les femmes réussissent parfois à contourner les interdictions dans le sport. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous sommes en compagnie de Guillaume Fourmont, rédacteur en chef délégué de la revue Moyen-Orient, dont le numéro du troisième trimestre sort cette semaine. Guillaume Fourmont, bonjour.
Bonjour.
Et dans ce numéro 23 de Moyen-Orient, vous dressez un bilan géostratégique depuis juillet 2013 en vous posant la question, est-ce le retour des dictateurs? Alors, qu'est-ce qui vous incite à l'envisager?
Tout simplement la situation politique au Moyen-Orient. D'une part, on retrouve des réflexes autoritaire, très fort au sein des pouvoirs en place. Ensuite, des pratiques de corruption qui n'ont pas disparu. Et enfin, et surtout, des élections, ou plutôt des pseudo-élections, qui n'amènent pas à un optimisme démocratique. Dans certains pays, je ne citerai que les élections les plus récentes, l'Algérie, la Syrie, mais surtout l'Égypte, les pourcentages pour les vainqueurs ont dépassé les 85%, des modèles qui nous rappellent un petit peu l'Union soviétique, mais qui révèlent véritablement un contrôle politique de la scène par une toute petite poignée d'hommes.
Alors vous écrivez notamment que pour les régimes en place, l'objectif est évidemment d'y rester, et pour y parvenir, de ne plus laisser d'espace aux voix du peuple. Or, les attentes des jeunes en particulier, sont énormes, et le modèle traditionnel de la société ne fait plus recette. Alors, ce n'est pas dangereux?
Oui, c'est dangereux, parce que on a assisté depuis 2011 à une libération de la parole. Au-delà des réflexes politiques des régimes en place, réforme ou pas réforme, autoritarisme ou pas autoritarisme, ce qu'a montré les différents peuples des pays du Moyen-Orient depuis 2011, c'est une libération de leur parole et de leur volonté. On l'a vu dans la musique, dans la littérature, dans l'art. Une véritable démonstration des aspirations. Mais ça, les dirigeants actuels n'ont pas voulu le voir, pire encore, le comprendre.
Alors, dans les sondages auxquels vous faites référence, il y a les craintes des troubles civils, notamment crainte des menaces de terrorisme ou d'absence d'un leadership fort en hausse. Mais aussi, le manque de démocratie, c'est quelque chose qui est plutôt en baisse dans les sondages. Qu'est-ce qui peut l'expliquer alors qu'il y a eu 2011?
Alors, malheureusement, ce qui peut l'expliquer, ce sont les situations qui se sont installées en Égypte, en Irak. La priorité de ces populations, c'est vivre en toute sécurité. On l'a bien vu pendant la campagne électorale en Égypte, même si on peut soupçonner le régime égyptien d'avoir un peu manipulé les masses, il y avait de véritables défenseurs d'un militaire, à savoir le maréchal Al-Sissi, pour un retour à l'ordre. Un peu d'une façon très napoléonienne. Mais ce Napoléon Sissi, si j'ose dire, réussira-t-il à renverser la tendance, à répondre aux attentes sociales et économiques? C'est ça le plus important pour les Égyptiens. L'économie est exsangue, le tourisme ne fonctionne plus, la croissance ne fonctionne plus, le mouvement ouvrier est excédé en Égypte. Donc il faut véritablement répondre à des attentes. Est-ce que le gouvernement Al-Sissi réussira à le faire? C'est la principale question.
Alors, parmi les constatations que vous faites dans votre dossier, Guillaume Fourmont, il y a celle terrible que plusieurs régions du Moyen-Orient sont désormais bien ancrées dans la violence, une violence durable, écrivez-vous. C'est une observation qui est particulièrement pessimiste pour les populations civiles.
Alors, effectivement, vous faites allusion à l'analyse de Hamid Bozarslan, chercheur à l'EHESS à Paris. Un exemple, il suffit de revoir ce qui vient de se passer en Palestine ces derniers jours. La mort de ces trois jeunes Israéliens et la mort de ce jeune Palestinien ne sont qu'un exemple que la violence passe avant les mots. Et donc effectivement, ça donne une vision qui ne reflète pas malheureusement les aspirations de la société civile. Vous savez, en Occident, surtout en Europe, on ne retient du Moyen-Orient que l'image d'une arme. Or, ce sont des sociétés extrêmement riches qui aspirent à bien d'autres choses et qui se battent tous les jours pour justement obtenir ce à quoi elles aspirent, travailler, manger, vivre. Il faut ne jamais oublier ça.
Alors vous évoquez également la question des frontières. Celles-ci sont remises en cause, y compris par les États eux-mêmes. N'est-ce pas un mauvais signal qui est envoyé à la communauté internationale ?
Pour l'instant, les frontières restent stables. Il y a une frontière qui vient d'être violée, entre guillemets, c'est la création de cet État islamique à la frontière entre l'Irak et la Syrie. D'ailleurs, cette renégation des frontières est dans la rhétorique de l'État islamique en Irak et au Levant, en mettant en cause les accords de Sykes-Picot du début du XXe siècle. Mais pour l'instant, les États, les régimes en place tiennent le coup au sein même de leurs frontières. Il faut regarder plutôt les frontières à l'intérieur des pays. Ce qui est intéressant, c'est la Libye. Ces frontières internationales existent, mais à l'intérieur du pays, ce sont plusieurs zones contrôlées par des milices, des zones de contrôle, des zones d'influence, par des revendications sécessionnistes, par des revendications tribales. C'est très intéressant de voir cette notion de frontière mouvante à l'intérieur même d'un pays, et le meilleur exemple est sans doute la Libye.
Guillaume Fourmont, parmi les autres sujets que vous traitez dans ce numéro 23 de Moyen-Orient, il y a la menace sur le patrimoine syrien et aussi la question de l'origine du voile islamique. Alors, sur le patrimoine syrien, vous tirez la sonnette d'alarme, c'est cela ?
Oui, c'est un constat extrêmement grave qui, bien évidemment, ce qui est très important à retenir du conflit syrien, c'est ces morts et puis ces réfugiés. Mais la Syrie est l'un des pays les plus riches, sinon le plus riche de la région, en patrimoine. Par exemple, les ruines de Palmyre ou la mosquée des Omeyyades à Damas, ce sont des patrimoines historiques extrêmement importants. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne connaît pas leur état. On ne fait que constater des destructions, des occupations, des pillages. Et donc, c'est une véritable menace pour l'avenir de la Syrie. Pourquoi ? Parce que les Syriens ont cette particularité de vivre dans cet espace de patrimoine. Je m'explique. Tout ce patrimoine dans les différentes villes de Syrie s'est intégré à la vie quotidienne des Syriens. Tous ces sites ne sont pas un musée, ne sont pas des sites qu'on n'utilise pas. Non, ils font partie du quotidien des Syriens depuis des siècles. Par exemple, cette ville chrétienne de Maloula, ou encore une fois, tous ces lieux de culte musulmans qui font partie de la vie quotidienne des Syriens. Et donc, ce sont les premières victimes d'une guerre qui va encore durer très longtemps, et on ne saura pas dans quel état ils seront et comment les sauver pendant longtemps, puisque même les archéologues n'ont pas accès à ces sites.
Et sur la question de l'origine du voile islamique, pourquoi justement vous posez cette question de cette origine ?
Alors, c'est une question intéressante parce que on pose beaucoup la question pourquoi les femmes portent le burqa. Pendant ce temps, on regarde en Malaisie ou en Indonésie, il y a des défilés de mode islamique. On voit les femmes porter un voile, un hijab avec beaucoup de couleurs. Mais pourquoi ne portent-elles pas la baya comme en Arabie Saoudite? Pourquoi ces femmes algériennes au 19e siècle, quand les Françaises sont arrivées, elles étaient en blanc? Aujourd'hui, certaines personnes issues de l'immigration revenant sur leurs valeurs islamiques portent un voile extrêmement austère, issu du Golfe. Pourquoi ce mélange, ces différentes modes ? Eh bien, c'est ce que cet entretien avec Bruno Nassim Aboudrar explique, revenant sur un point fondamental. Rien n'oblige dans la religion musulmane à porter le voile. C'est sans doute ce qu'il faut retenir de cet entretien.
Merci Guillaume Fourmont, rédacteur en chef délégué de la revue trimestrielle Moyen-Orient, dont le numéro 23 sera en kiosque lundi prochain.
Orient Hebdo sur RFI.
Des Émirats du Golfe au bord de la Méditerranée, des plages de la mer Noire aux confins du Kurdistan, les observateurs de France 24 nous envoient leurs informations insolites, humoristiques ou révoltées, c'est selon. Bonjour Sarah Grira.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'une des journalistes qui collecte ces informations des observateurs et comme chaque mois, vous avez sélectionné trois de ces informations pour Orient Hebdo. On commence par l'Algérie, et ce n'est pas pour parler foot mais santé.
En effet, dans l'Est algérien et plus précisément à Constantine, un père de famille a filmé sa déambulation dans une clinique pédiatrique fantôme. Cet homme était arrivé à 5h du matin paniqué par les problèmes respiratoires de son nourrisson, mais il n'a trouvé aucun médecin de garde. Les locaux étaient complètement vides. La vidéo a été partagée sur la toile par des internautes qui y voyaient la preuve d'un système de santé défaillant. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le père de famille qui est recherché par la police pour diffamation, car la direction de santé conteste l'authenticité de ces images.
Images que vous avez évidemment vérifiées. Direction le Koweït maintenant, où les réseaux sociaux ne sont pas toujours utilisés pour de nobles causes, comme l'un de vos observateurs a pu le constater, Sarah.
Vous connaissez évidemment l'application pour photos Instagram, Eric. Eh bien, cet outil ne sert pas seulement à raconter ses vacances ou à poster ses selfies. Un Koweïtien a en effet transformé ce réseau en outil de délation en créant un compte où il incite ses compatriotes à publier des photos de leurs employés de maison en fuite. Des dizaines de photos ont été postées, comportant le plus souvent des informations détaillées sur l'identité des travailleurs en question. Et le compte est suivi par pas moins de 2700 followers. Les commentaires comptent à eux varie entre soutien aux employeurs et xénophobie.
On termine sur une note plus positive et sportive, Sarah, avec cette information en provenance d'Iran.
Et là non plus, il ne s'agit pas de foot, mais de volley-ball. L'Iran a une équipe de volley au top de sa forme, mais voilà, les stades sont interdits aux femmes depuis 2005 par la police de la moralité. Et pourtant, dimanche 15 juin, au stade Azadi, où l'Iran affrontait le Brésil, première équipe mondiale, des Iraniennes étaient bien dans les gradins. Certaines d'entre elles ont confirmé à l'agence officielle iranienne d'information qu'elles avaient réussi à entrer en portant des maillots brésiliens et en sollicitant la complicité de familles brésiliennes venues assister au match. Et il y avait même, parmi elles, une représentante de la secrétaire d'État aux droits des femmes, membre du gouvernement d'Hassan Rouhani.
Merci Sarah Grira. On peut retrouver les observateurs sur le site observers.france24.com.
Merci.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les journaux arabes consacrent une très large place à Daesh, le groupe djihadiste de l'État islamique en Irak et au Levant, et ils constatent que l'organisation gagne du terrain en Syrie.
Oui, Daesh est en effet parvenu à chasser les combattants de Jabhat al-Nusra de Deir ez-Zour. Jabhat al-Nusra, qui est une organisation extrémiste musulmane affiliée à Al-Qaïda et qui est classée comme mouvement terroriste, et pourtant, note les éditorialistes, elle paraît presque modérée à côté de Daesh. Daesh contrôle aujourd'hui une bonne partie du territoire syrien, son pétrole et son eau, titre Al-Sharq Al-Awsat. Le journal ajoute que Daesh est aussi en train d'attirer les combattants des autres formations de la rébellion armée syrienne, que ce soit Jabhat al-Nusra ou l'armée libre. De plus, Daesh reçoit des forces et des renforts de Jordanie, où les islamistes sont puissants, et la Jordanie, dans la frontière avec la Syrie, est extrêmement poreuse.
Et les journaux rapportent aussi, Alexandre, la préoccupation du monde arabe face à la possibilité de l'extension de Daesh au-delà de la Syrie et de l'Irak.
Oui, surtout du fait que Daesh a décrété le califat, elle a même choisi un calife en la personne d'Abou Bakr al-Baghdadi, et publié une carte de la Oumma, la nation islamique, une carte qui va du Pakistan à l'Andalousie en passant par l'Europe de l'Est, une carte qui préoccupe tous les régimes arabes, du Levant au Maghreb. Ils craignent la création de groupuscules locaux liés à Daesh, comme cela avait été le cas avec Al-Qaïda, par exemple avec ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et une préoccupation qui est reflétée par les contacts qu'a entrepris le secrétaire général de la Ligue arabe, selon les journaux, avec de nombreux ministres des Affaires étrangères. L'Égypte, rappelle certains journaux, est le premier pays à avoir annoncé le démantèlement d'une cellule de Daesh venue de Gaza à travers les tunnels.
Dans l'actualité vue par les journaux israéliens, Michel Paul, il y a la tension entre Israël et Gaza.
C'est la une de tous les journaux du week-end en Israël, à l'issue d'une semaine très tendue sur plusieurs fronts. Alors Haaretz parle de l'ultimatum d'Israël au Hamas, le calme immédiat ou alors une attaque d'envergure. Marie publie la photo d'un tank à la lisière de la bande de Gaza, avec pour titre « Préparatifs avant l'opération militaire ». Partout, Eric, on retrouve la formule énoncée par le Premier ministre israélien, le calme en échange du calme. Dans Israel Hayom, le journal proche du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, c'est une autre de ces petites phrases qui sert de manchette. Si le tir de roquettes se poursuit, Israël réagira avec toute sa force. Le journal publie aussi un article signé par le maire d'une agglomération visée par les roquettes palestiniennes. Il faut agir, dit-il, pour qu'Israël retrouve sa force de dissuasion. Dissuasion, c'est la règle du jeu dans cette confrontation, stipule pour sa part un éditorialiste du Yediot Aharonot. Plusieurs commentateurs font remarquer que la direction est celle de l'escalade, bien qu'aucune des parties, ni Israël, ni même le Hamas, ne souhaite envenimer les choses.
Et puis, bien sûr, Michel, dans l'actualité, toujours la mort des trois jeunes Israéliens et celle de l'adolescent palestinien de Jérusalem.
Oui, les journaux accompagnent le deuil national qui a frappé Israël après la découverte des corps des trois jeunes gens. Les médias en Israël ont diffusé en boucle l'enregistrement de l'exécution des adolescents telle qu'elle a été captée par le téléphone de l'un d'entre eux. On entend la rafale qui a mis fin à leur vie et les deux auteurs de l'enlèvement qui chantent à tue-tête. Dans la presse aussi, le meurtre d'un jeune palestinien de Jérusalem-Est et les émeutes qu'il a provoquées dans la partie orientale de la ville. Le titre d'un éditorial en dit long. Le cycle infernal de la vengeance.
Beaucoup d'interrogations également dans les journaux arabes, Alexandre Bouchanti, après la série de bombes qui ont explosé dans le courant de la semaine en Égypte.
Et ce sont surtout, évidemment, les journaux égyptiens qui titrent sur l'affaire. Alors, les Ikhwan, les frères musulmans, commémorent la destitution de Morsi avec 13 bombes primitives, titre Al-Yom Saba. Le président frère musulman avait été destitué, rappelons-le, par l'armée le 3 juillet 2013, un an seulement après sa prise de pouvoir. La confrérie terrorise ceux qui jeûnent, titre Al-Masriyom Al-Watan, lui, joue la carte du défi en titrant des bombes insignifiantes pour commémorer un président incompétent. Quoi qu'il en soit, plusieurs analystes se demandent si l'on n'est pas en train d'assister à une radicalisation du faction des frères musulmans, surtout chez les jeunes membres de la confrérie.
Michel Paul, dans le contexte actuel de tension, que penser de la politique de destruction par Tsahal de maisons en Cisjordanie ?
Haaretz se penche sur cette question qui fait de longue date l'objet d'une controverse en Israël. Selon le quotidien, on assiste à un renversement de position. Désormais, l'armée va détruire les maisons des familles des auteurs d'actes de terrorisme. Ces dernières années, suite aux problèmes juridiques et aux critiques internationales, les militaires avaient renoncé à cette sanction. Haaretz indique qu'une vague de destruction de maisons est à l'heure actuelle à l'étude.
Et puis Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais, Tel Aviv est en pleine crise, Michel.
C'est la guerre du Shabbat à Tel Aviv, Eric. À l'opposé de Jérusalem, de nombreux supermarchés sont ouverts vendredi soir et samedi dans la métropole israélienne. Eh bien, le ministère de l'Intérieur a décidé de faire appliquer la loi qui exige leur fermeture. Une affaire à suivre, donc.
Et puis Alexandre, la presse arabe salue la performance de l'Algérie au Mondial de football au Brésil.
Oui, pour les journaux arabes, les Fenech ont remporté une victoire morale qui relève le moral de la nation arabe, écrit un éditorialiste dans Al-Haya. Même la presse égyptienne, qui lors de la dernière Coupe du Monde tirait à boulet rouge sur les Algériens, lève son tarbouche. Les Algériens ont fait honneur à tous les Arabes en se battant comme des lions jusqu'au bout.
Votre photo du jour, Michel Paul, pour conclure cette revue de la presse régionale.
Eh bien, c'est la photo d'immeubles d'habitation à Sderot, touchés de plein fouet par des tirs de roquettes en provenance de Gaza. Pas de victimes, mais des dégâts matériels très importants.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à notre réalisateur François Porcheron. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.